Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Bienvenue dans Paris Politique. L'actualité nous ramène à ce mot en Île-de-France, la laïcité. Valeur clé de la République est-elle malmenée dans notre région? Quels sont les outils pour assurer le respect de cette laïcité? Les atteintes à la laïcité en Île-de-France, quelle réalité? C'est le titre de notre émission. Ce soir, Najwa El Haïté, adjointe au maire d'Évry-Courcouronnes et mon invité, nous serons accompagnés tout au long de l'émission par ceux qui sont au plus près de la jeunesse francilienne dans les écoles et les club de sport. Paris Politique, c'est parti. Najwa El Haïté, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc adjointe au maire d'Évry-Courcouronnes dans l'Essonne et auteur de Laïcité et République, c'est votre livre. Avant de revenir sur notre thématique centrale, j'aimerais vous faire réagir à l'actualité. Dans l'Essonne, deux morts en deux jours lors de rixes, deux adolescents, uniquement des mineurs mis en examen. Et puis là, on l'a appris récemment, hein, à Évry, il y a eu une autre rixe avec un blessé à l'arme blanche. Une trentaine de jeunes qui se sont affrontés lors de bandes rivales. Ces événements dramatiques, cela dit quoi de notre jeunesse?
Mais déjà, c'est un drame. C'est un drame pour la ville, c'est un drame pour la jeunesse, c'est un drame pour tous les acteurs qui accompagnent aussi cette jeunesse au quotidien.
Et puis il y a un côté impuissance peut-être, hein. Il y a 48 heures, Gérald Darmanin annonçait des renforts policiers dans le département et puis on voit que ça continue.
Mais ce qui est vrai, c'est pas un phénomène nouveau. Ça fait des années que ces rixes existent, pas uniquement à Évry-Courcouronnes, hein, aussi dans d'autres communes. Mais on constate à chaque fois des jeunes de plus en plus jeunes, j'allais dire des mineurs âgés de 13 à 15 ans, et avec une radicalité dans la violence. C'est-à-dire que la rixe peut se terminer par un décès. Et c'est là où c'est nouveau, parce que les rixes existaient, si vous lisez des ouvrages de sociologues, les rixes existaient déjà dans les années 50. On parlait des blousons noirs.
Mais et alors justement, vous dites de plus en plus jeunes, oui, avec souvent des morts à l'issue de ces affrontements. Cela dit quoi de cette jeunesse? Ça dit quoi qu'elle est malheureuse? Pourquoi tant de violence, hein? C'est peut-être naïf ma question.
Non, pas du tout.
Comment arrive-t-on à un tel niveau de haine?
Non, c'est une question au contraire importante. Je pense qu'il y a, avec la dislocation de la cellule familiale, le perte de repères, des valeurs, l'échec scolaire, aussi une école, on a beau le dire, hein, c'est-à-dire malgré les efforts du gouvernement, et là je pense notamment au dédoublement des classes en primaire, malgré cela, l'école crée des inégalités. Vous avez 150 000 élèves, enfants, qui quittent le milieu scolaire, et ça, c'est terrible. Et donc, c'est toute cette addition de facteurs qui fait que vous avez une jeunesse qui se cherche, qui est en manque de repères, qui est biberonnée aux jeux vidéo, avec la violence qui va avec, et puis aussi des parents, soit qui en termes de responsabilité ne sont pas au rendez-vous, pas tous les parents, ou des parents qui sont eux-mêmes dépassés. Et c'est là où la ville d'Évry, par exemple, Courcouronnes, comme d'autres villes, mettent en place des maisons de la parentalité pour accompagner aussi ces parents
ses parents
qui sont pour certains dépassés par leurs enfants.
Vous avez parlé du rôle de l'école, on va y revenir tout au long de cette émission. On va revenir sur notre thème central, Najwa El Haïté, laïcité, la laïcité. Ce mot est revenu de nombreuses fois dans l'actualité ces derniers mois, de façon particulièrement dramatique avec l'assassinat du professeur Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, de façon plus polémique avec la lettre ouverte de ce professeur de philosophie à Trappe, Didier Lemaire, qui dénonçait une emprise communautaire dans la ville, des atteintes à la laïcité avec des coiffeurs non mixtes, des cafés auxquels ne peuvent pas accéder les femmes. Il affirme avoir été menacé après son témoignage, qui d'ailleurs est devenu rapidement une affaire politique. Najwa El Haïté, qu'avez-vous compris de cette prise de position, ce qu'il décrivait Didier Lemaire à Trappe, c'est une réalité que vous aussi vous avez constatée ?
Oui, c'est une réalité dans différents territoires. Heureusement, c'est pas, j'allais dire, ça se traduit pas dans toute la France. Mais en effet, il y a des quartiers où l'idéologie d'islamisme, parce qu'il faut nommer les choses, on parle d'islamisme, on parle pas d'islam. Donc c'est une idéologie mortifère qui, je le rappelle, a fait des morts en France. Donc vous vous souvenez du Bataclan, vous parliez également de Samuel Paty, où là, symboliquement, cette idéologie attaque l'école aussi. Et donc, symboliquement, l'école qui est ciblée a permis aussi une prise de conscience quant à la dangerosité de cette idéologie.
Mais concrètement, les atteintes à la laïcité, est-ce qu'elles ont augmenté ? Par exemple, dans une ville comme Évry, est-ce que vous pourriez me citer des exemples d'aménagements contraires à la laïcité ?
Bon, tout d'abord, j'aimerais rappeler qu'il faut surtout pas confondre la laïcité, la radicalisation, parce que on a tendance à tout mélanger.
Voilà. C'est vrai. Donc aussi la laïcité, pour bien rappeler les
concepts. Voilà, c'est en termes simples la liberté de croire ou de ne pas croire, et avec cette limite qui est l'ordre public. Une fois que j'ai dit ça, moi je le vois dans la ville d'Évry-Courcouronnes, vous avez des habitants qui ne savent pas ce que c'est que la laïcité. Vous leur demandez, ils pense même, pour ceux qui sont de confession musulmane, que c'est un principe qui les cible. Et c'est là où le rôle de l'élu, le rôle aussi des associations, c'est d'expliquer ce que c'est que la laïcité. Alors je vais citer des exemples concrets. Donc la ville d'Évry-Courcouronnes a organisé des formations à destination des habitants pour les rassurer et leur dire en fait la laïcité au contraire c'est un principe de fraternité où vous avez le choix d'exercer librement une religion ou pas d'ailleurs. Vous avez également le choix d'exprimer votre appartenance religieuse ou pas. Et donc, il s'agit vraiment de faire connaître et de donner une définition de ce qu'est la laïcité. Et ce n'est pas si simple que ça. Au-delà des habitants, et j'en terminerai par là, vous avez aussi les formations auprès des agents publics. Parce que là aussi, il y a une méconnaissance de ce qu'est la laïcité. Et donc, il y a des violations du principe de la laïcité. Par exemple, un agent public, on lui demande d'être neutre. Eh bien, à Évry-Courcouronnes, on s'est aperçu, heureusement que ce n'est pas la majorité, des agents publics qui faisaient du prosélytisme religieux. Donc, ils ont été rappelés à l'ordre.
Dans une tribune écrite le 18 octobre 2020, suite à l'assassinat de Samuel Paty, vous dénoncez des quartiers entiers échappant aux lois de la République, donc, dont la laïcité fait partie. L'islamisme y règne en maître du fait de la démission ou de clientélisme de certains élus locaux. De quoi parle-t-on ? De quelle situation précisément ?
Alors précisément, France, donc on a tendance à parler à chaque fois de l'islamo-gauchisme. Mais il n'y a pas que la gauche. Enfin, je veux dire, il y a aussi des maires qui font, et faut le dire, du clientélisme, du communautarisme, parce que voilà, ils doivent se faire réélire, et donc il s'agit vraiment de discuter avec des personnes qui prônent, j'allais dire un islam conquérant. Donc là, je parle d'islamisme. Et par exemple, la construction...
Mais vous avez des exemples précis à nous citer, parce que c'est aussi ça, il faut faire attention à ces grandes phrases. Et puis derrière, en fait,
J'ai un exemple précis à vous citer, notamment à Évry-Courcouronnes. À l'époque, j'étais adjointe au maire à la culture et j'avais rendez-vous avec un artiste. Donc je garde ma voiture et il y a eu plusieurs voitures qui tentaient de se garer. Et là, j'étais interpellée par le nombre de voitures. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois des papas déposant leurs petites filles voilées de haut en bas. On n'était pas en période de vacances scolaires. Nous étions en période tout à fait normale et il était 9h30 du matin. Qu'est-ce que faisaient ces petites filles voilées de haut en bas, qui étaient âgées de 7-8 ans, qui du coup se sont dirigées vers un endroit assez, j'allais dire, discret. Et j'ai découvert en fait que c'était une association non déclarée auprès de la préfecture où on enseignait... Je ne sais pas quoi. C'est-à-dire l'enseignement qui était présenté, puisque j'ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'on enseignait là, on m'a dit l'arabe. Mais autant vous dire que ça interpelle, non ? Des petites filles voilées de 7 à 8 ans, de haut en bas, au lieu
alors,
qu'elles se trouvent à l'école...
Elle dit quoi, cette situation ? On a bien compris ce que vous aviez vu. Elle dit quoi de la société ?
C'est une forme d'endoctrinement idéologique. C'est-à-dire que, au lieu d'être à l'école, ces petites filles allaient dans une association non déclarée où on ne sait même pas ce qui est enseigné. Rien que le fait de voir une petite fille voilée de haut en bas, en termes d'égalité entre les hommes et les femmes, excusez-moi, en France, ce n'est pas admissible. Donc voilà un exemple concret. Et donc, vous avez en effet des territoires où progressivement, l'islamisme est en train de gangréner, comme le disait Didier Lemaire, les consciences, les corps et les esprits.
Najwa El Haïté, on va s'intéresser à la notion de laïcité. On en parlait tout à l'heure pour bien comprendre ce que ça recouvre. On est allé poser la question aux Franciliens. Qu'est-ce que la laïcité ? On les écoute au micro de Nargis Hadji.
Je suis franco-marocaine et c'est deux cultures complètement différentes. Et mes parents, ils m'ont appris le respect en fait. La laïcité, c'est on est tous égaux.
C'est un principe de neutralité de l'État. L'État ne s'engage pas dans la religion, dans les problématiques religieuses.
Enfin, par exemple, je sais pas, un truc con, le poisson à l'école le vendredi, les fêtes nationales qui sont, si je me trompe pas, plutôt catholiques. Enfin, finalement, c'est pas très laïque, quoi.
C'est intéressant ce que dit la dernière jeune fille qu'on vient d'entendre. En
très
se disant, finalement, le poisson, le vendredi, c'est pas très laïque.
Oui, mais attention.
Parce que vous parlez beaucoup d'islamisme.
Oui,
mais quand on parle de laïcité, on parle de toutes les religions. Alors comment on y voit clair ?
J'y viens. L'islamisme, pourquoi je parle d'islamisme ? Parce qu'on constate un problème à ce niveau-là dans différents quartiers. Mais attention, la laïcité, c'est pas un principe anti-religion. Et
non,
souvent, on a l'impression, il y a certaines personnes qui pensent que la laïcité, c'est un principe d'athéisme, mais pas du tout.
Je reviens sur ce que dit cette jeune fille, parce que je pense que c'est intéressant et que la confusion, elle peut aussi venir de là. Quand cette jeune fille dit le poisson le vendredi à l'école, c'est pas très laïque.
Ouais, mais, je vous avouerai que là, on parle de notamment suite à une polémique venant de la ville de Lyon, de menus végétariens, de menus. Je vois où vous voulez mener, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faut pas...
Vous n'avez pas envie d'y aller.
si, au contraire, mais en toute liberté, bien sûr que les religions, elles doivent être traitées en toute égalité. Mais il n'est pas question non plus, par exemple, dans une commune, et on l'a vu notamment à Évry, Courcouronnes, dans les cantines scolaires, tout le monde a la possibilité de manger ce qu'il veut. Celui qui veut manger du poisson, mange du poisson. Celui qui veut manger de la viande, ce qui est gênant, c'est les revendications, vous voyez, communautaristes. Et c'est ça qui est un véritable danger. Moi, je suis très, très attachée, vous voyez, au principe d'universalité, au principe d'égalité entre les religions. Et il ne s'agit pas de mener un rapport de force entre différentes revendications religieuse, il s'agit au contraire de respecter ce principe de fraternité, d'égalité entre les religions. Et d'ailleurs, il y a aussi des gens qui ne croient pas. Donc respectez aussi cela.
Respectez aussi cela, vous avez raison. Nous avons été rejoints sur le plateau par Jean-Rémy Girard. Bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes président du syndicat national des lycées, des collèges et professeur de lettres au lycée Auguste Renoir à Asnières sur Seine. Tout d'abord, est-ce que vos élèves, tout simplement, comprennent ce que c'est la laïcité ? Où on sent qu'il y a des petites confusions, voire des crispations.
Non, globalement, c'est un principe qui, en tout cas chez nous, est assez bien compris. Je dirais qu'on a aussi une super équipe de professeurs d'histoire-géographie qui assurent le fameux enseignement moral et civique.
Bien sûr.
Et que de ce point de vue-là, ils font un travail vraiment exceptionnel avec des élèves qui sont des élèves de banlieue, qui sont souvent issus de milieux, enfin parfois défavorisés, avec des questions religieuses qui peuvent venir derrière. Et je crois que c'est un message qui, sur les 3 années du lycée, arrive clairement à passer.
J'aimerais vous montrer une étude, c'est celle de la Fondation Jean Jaurès, menée auprès des enseignants du second degré public. Cette question leur a été posée en décembre 2020. Afin d'éviter des possibles incidents provoqués par certains élèves, vous est-il déjà arrivé de vous auto-censurer dans vos enseignements sur les questions religieuses? 800 profs interrogés, oui pour 49%, plus 13 points depuis 2018. Jean-Rémy Girard, est-ce que vous faites partie de ces 49%?
Non, moi ça m'est jamais arrivé de m'auto-censurer pour des raisons religieuses. Je suis pas dans la discipline la plus... la plus directement confrontée, même si la littérature aborde parfois des questions liées à la religion. Mais je dirais on ne les aborde pas du point de vue du quotidien des élèves. On ne les aborde pas du point de vue généralement de l'actualité, de la société d'aujourd'hui telle qu'elle est. On les aborde souvent de façon, de biais. Quand on étudie Candide de Voltaire, moi ça m'arrive chaque année.
Et vous avez des questions ? Vous avez des questions particulières auxquelles parfois il est compliqué de répondre ?
Alors moi, j'ai vécu surtout une expérience l'an dernier là-dessus qui m'a fait aussi me rendre compte, enfin je m'imaginais bien sûr, mais qui m'a fait me rendre compte d'où ça pouvait aller. Avec ma classe, on avait une intervention sur la question du sida pendant 2 heures. On avait un intervenant extérieur qui intervenait sur la question du sida. À un moment est venue, forcément malheureusement, la question l'homosexualité, la prévalence du sida chez les homosexuels, chez les hétérosexuels. Mm-hmm. Et un élève, d'un seul coup, est parti comme ça, complètement en live, sur le fait que lui trouvait pas ça naturel, que c'était pas normal l'homosexualité.
Et vous aviez les moyens de lui répondre ?
Alors en fait, ce sont ses camarades qui lui ont répondu. En fait, les camarades, plusieurs jeunes filles notamment, ont quasiment lancé un débat, ont quasiment dit que non, sa position n'allait pas, que elles ont en gros eu un message de tolérance hein, en disant que voilà, chacun faisait bien ce qu'il voulait, etc. J'ai eu l'occasion de reprendre avec lui et avec quelques-uns de ses copains ensuite, une fois en fait la chose terminée. Ça, c'est un point très important, c'est en fait, c'est qu'on ne l'a pas géré devant le groupe, c'est qu'on en a discuté individuellement.
Et ça, c'est sans doute la bonne méthode. Najwa El-Haït, est-ce que pour vous, il y a des situations compliquées? Est-ce que le chiffre qu'on a montré tout à l'heure vous interpelle dans les écoles franciliennes?
Non, il ne m'interpelle pas. À certains endroits, oui, il y a des enseignants qui s'auto-censurent, qui ne peuvent pas enseigner, par exemple, la théorie du darwinisme. Ça, c'est une réalité. Nous-mêmes, dans certaines classes, heureusement, pas tout. C'est pour ça qu'il faut vraiment apporter de la nuance. Dans certaines classes, oui, il y a des enseignants qui peuvent pas enseigner normalement les sciences naturelles. On parlait aussi d'aller à la piscine. Là aussi, ça pose des difficultés à certains endroits. Donc, il ne faut pas le nier. Donc, je ne suis pas étonnée par ce chiffre. Et souvenez-vous quand même du rapport Aubin de cet inspecteur de l'éducation nationale qui, depuis plusieurs années, avait alerté là-dessus. Et à chaque fois, la réponse, c'était de dire pas de vague au niveau de l'administration. Et donc, il s'agit vraiment...
Vous avez cette impression de pas de vague, justement?
Ah oui, mais je sais pas si vous
qui côtoyez beaucoup de professeurs.
Bien sûr, oui, de par mes fonctions syndicales au SNALC, bien entendu. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un peu plus de 2 ans, il y a eu ce grand mouvement hashtag pas de vague d'enseignants sur les réseaux sociaux qui ont expliqué comment l'administration, souvent, ne les soutenait pas. Et c'est aussi le cas sur ce type de questions. Nous, au niveau syndical, alors je peux pas évoquer, des cas concrets de collègues précis et même identifiables. Ça pourrait même être dangereux pour certains que nous on suit au SNALC. Oui, on a ces questions-là. Et je dirais, la difficulté et l'autocensure aujourd'hui, il me semble qu'elle vient peut-être de moins en moins en proportion de la question des élèves en classe que de la question de ce qui peut se passer ensuite avec les familles. Et je crois que le rapport, là où ça explose, là où ça peut très très mal se passer, très vite très mal se passer, c'est quand on a les familles, les amis, etc., qui viennent se mettre dans ce truc-là. Quand on est dans la relation avec l'élève, généralement, on arrive à gérer.
Dans le contexte de l'école.
Voilà. Dans le contexte de l'école, ça va. C'est quand ça dépasse le contexte de l'école qu'on peut avoir des situations qui dégénèrent très, très gravement.
Najwa Elaïté, comment justement répond-on à un jeune qui peut contester, hein, comme l'histoire de M. Jean-Rémy Girard, qui ne comprend pas, vous parliez de la théorie du darwinisme. Pour vous, quelle est la bonne parole à opposer à cela ?
Je rejoins parfaitement les propos de M. Girard, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, eh bien, il va à l'école, on lui enseigne, ou on tente de lui enseigner un savoir. Mmh. Et quand il rentre chez lui, il n'y a pas le même discours et il n'y a pas le même...
Il faut s'y retrouver.
Donc il faut que cet enfant s'y retrouve. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous avais parlé d'un exemple concret où il s'agissait pour la ville d'Évry-Courcouronnes de... ouvrir les formations, pas uniquement aux agents publics, mais même aux familles, pour expliquer ce que c'est que la laïcité, ce que c'est également l'enseignement à l'école. L'école, c'est un sanctuaire. Un sanctuaire qui doit être préservé de toute influence politique, religieuse.
Mais vous comprenez que pour certains jeunes, la religion puisse être un refuge, surtout en ce moment, hein, période compliquée, et qu'ils ne comprennent pas qu'on nie cette identité-là au sein de l'école.
Moi, je ne suis pas anti-religieuse, je suis française de confession musulmane. Mais il s'agit de ne pas sombrer dans une radicalité qui vous fait rentrer, là je parle pour certains élèves, en confrontation avec votre enseignant parce que vous estimez que ce que dit votre enseignant est faux parce que pas compatible avec votre religion. C'est même dangereux concernant les valeurs républicaines qu'on souhaite véhiculer au sein de l'école.
Jean-Rémy Girard, justement, est-ce que vous avez les moyens de voir le moment où on doit s'inquiéter, à quel moment on place le curseur en se disant là, non, c'est trop?
C'est pas facile parce que les élèves vont pas forcément toujours nous montrer ce qui se passe dans leur tête et on n'a pas forcément accès, je dirais, aux pensées qu'il peut avoir. Finalement, cet élève là dont je parlais qui s'est exprimé, très librement, c'est pas plus mal qu'il l'ait fait parce que ensuite nous on a pu avoir une discussion.
Vous pouvez désamorcer.
Et on a désamorcé, mais je me dis, peut-être qu'il est ressorti, je l'espère, hein, je suis enseignant, moi j'espère toujours pouvoir élever l'élève, peut-être qu'il en est ressorti un peu différent de la façon dont il était rentré. Et peut-être que ça va avoir une influence sur la suite de son parcours et qu'un jour, si il croise un couple homosexuel dans la rue en train de s'embrasser, peut-être qu'il ne va pas leur tomber dessus et leur casser la figure. Et dans ces cas-là, j'aurais fait œuvre utile. Voilà, ça c'est... Mais néanmoins, oui, on a quand même des moyens à un moment de se rendre compte quand ça ne va pas. On a besoin... Sans aucun doute, je ne veux pas faire mon syndicaliste de base, mais à un moment, on a quand même besoin de certains personnels. Les assistants sociaux, les assistantes sociales, c'est des personnels ultra importants dans ce genre de situation, parce que souvent, on a des questions familiales derrière.
On en a tellement peu.
Il nous en faudra en nombre pour pouvoir justement... Parce que les enseignants, nous, on a une formation très limitée sur ces questions-là.
Et c'est peut-être cela le problème aussi.
Fait ce qu'on peut,
en fait. On va avancer dans l'émission. Merci beaucoup Jean-Rémy Girard d'avoir été avec nous. On va voir maintenant ce qui encadre dans notre région ce principe de laïcité. C'est l'heure de notre focus. Alexia Elisabeth de notre service politique nous a rejoint. Bonsoir Alexia.
Bonsoir.
Il y a tout un arsenal de mesures pour faire respecter le principe de laïcité.
Oui, il existe énormément de dispositifs pour faire respecter la laïcité en Île-de-France. C'est le cas premièrement des chartes de laïcité. La région Île-de-France a adopté la sienne le 9 mars.
Alexia Elisabeth, je t'interromps car nous avons un petit problème de son. On va allumer ton micro et on va reprendre juste après. Alexia Elisabeth qui va revenir nous rejoindre. Najwa Elaïté, est-ce que selon vous, il y a un arsenal politique suffisant pour justement gérer les atteintes à la laïcité, faire respecter le principe de laïcité ?
Oui, déjà avant la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale en première lecture, confortant les principes républicains. On avait un arsenal. Vous avez des référents laïcité qui ont été mis en place dans la fonction publique. Donc, c'est une circulaire de 2017. Vous avez des référents laïcité au sein de l'éducation nationale. Donc, dès qu'il y a un problème concernant cette question...
Apparemment, ça ne marche pas tant que ça. Hein.
Oui, bah, dans la...
Jean-Rémy Girard nous disait justement qu'il n'y avait pas beaucoup de répondants.
Oui, il n'y avait pas... À certains endroits, il y a du répondant et dans d'autres, à d'autres endroits, non. Mais en tous les cas, les dispositifs existent bien.
On va retourner voir justement Alexia Elisabeth qui va nous faire un petit récapitulatif des dispositifs qui existent justement. Alexia, on t'écoute.
Justement, donc il y en a énormément de ces dispositifs pour faire respecter la laïcité en Île-de-France. C'est le cas premièrement donc des chartes de laïcité. La région Île-de-France a adopté la sienne le 9 mars 2017. Cette charte francilienne permet au conseil régional de stopper les subventions à des associations qui refuseraient de la signer. Elle ne permet pas en revanche la dissolution de ces associations, pouvoir dont ne dispose pas la région. Vivement critiquée par l'opposition, certains pans de cette charte ont été annulés par le tribunal administratif, c'était en 2018, car selon les juges, certaines mesures allaient trop loin, comme l'article 6 qui disposait que les usagers de services publics régionaux devaient s'abstenir de toute forme de prosélytisme, alors que cette activité est légale et encadrée par le droit européen. Depuis, plusieurs départements de notre région ont aussi adopté une charte de laïcité, c'est notamment le cas en Essonne, où elle a été adoptée à l'unanimité en mars 2020 et puis plus récemment dans le Val d'Oise où elle est effective depuis le 1er janvier. Ces chartes, elles sont généralement accompagnées de commissions composées d'élus qui peuvent être saisies par des particuliers en cas de non-respect de ces valeurs. Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation sont aussi mises en place en marge de ces chartes à destination des plus jeunes via les acteurs associatifs. Deuxième dispositif existant, les observatoires de la laïcité. Il en existe par exemple à Paris, dans le Val d'Oise ou encore en Seine-Saint-Denis. Dans la capitale, l'Observatoire parisien de la laïcité a été créé en 2012 par la mairie de Paris. Depuis, il s'est assez peu réuni, hein, mais il sert notamment à rendre des avis qui vont apporter des solutions à des problèmes rencontrés au sein même des services de la ville ou bien au sein d'associations subventionnées par la mairie. Un observatoire de la laïcité existe aussi au niveau national, mais depuis 2007, cette fois-ci, il a été créé par Jacques Chirac à l'époque et Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté, veut cependant le faire évoluer à partir de la fin du mandat de son président, le président donc de l'Observatoire, hein, le 2 avril prochain. Dernier dispositif qui va venir encadrer la laïcité, il s'agit de la loi contre les séparatismes qui a fait beaucoup couler d'encre. Quelques mesures inscrites dans ce projet de loi, par exemple, eh bien, l'instruction à la maison qui fera l'objet d'une autorisation. Désormais, il faudra remplir certains critères pour être exempté des cours à l'école. Le délit de séparatisme qui, lui, sera puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, l'interdiction formelle par exemple de certificat de virginité chez un médecin par exemple, ou encore eh bien, les associations qui devront s'engager là aussi à respecter les valeurs de la République pour être subventionnées et les conditions de dissolution de celles-ci qui seront élargies. Alors ma question pour vous, Najwa El Haïté, y a-t-il besoin d'un tel millefeuille administratif pour faire respecter la laïcité dans notre région?
On vous écoute.
Oui, alors on parlait de la loi confortant les principes républicains qui a été votée et qui permet en effet de disposer de dispositifs supplémentaires ou de les renforcer. On parlait des fameuses chartes de la laïcité. C'est vrai que différentes communes se sont dotées de chartes de la laïcité, comme à Évry-Courcouronnes d'ailleurs.
Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? C'est la question d'Alexia Elisabeth. On a des lois assez claires et on en rajoute.
Cette loi, elle était importante pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que les chartes de la laïcité, vous voyez, juridiquement, vous le rappeliez, eh bien, le tribunal administratif a cassé cette charte de la laïcité. Avec la loi, ça va permettre de conforter cette charte de la laïcité pour suspendre les subventions des associations qui ne respectent pas la charte. Et donc ça, c'est par exemple utile. Cette loi aussi, elle est extrêmement importante. Je reviens sur l'égalité entre les femmes et les hommes, où il y a des dispositifs qui vont permettre de lutter contre la polygamie, voyez, contre les certificats de virginité. Et ça, c'est extrêmement aussi important en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, vous voyez, cette loi est utile. Après, qu'est-ce qu'on en fait de cette loi ?
Qu'est-ce qu'on en fait ?
Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des lois... Il y a des lois qui sont votées, mais sur le terrain, qui ne sont, pas, qui sont pas appliquées. Eh bien là, il y a une vraie responsabilité des élus locaux, des associations.
C'est là qu'intervient leur responsabilité.
C'est ça. Il faut absolument qu'ils se saisissent de cette loi pour en faire vraiment une réalité dans le quotidien de leur mandat. Mais il n'y a pas que les élus locaux, il y a aussi les associations qui sont aussi acteurs de la mise en place de cette loi. Donc il faut se saisir de cette loi.
Merci beaucoup,
merci à vous.
Elle a été d'être venue dans Paris Politique. L'information continue sur BFM Paris. Restez avec nous. À tout de suite.